La Première Podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
On parcourt ensemble aujourd'hui donc une large page de l'automobile française avec vous, Caroline.
Oui, Laurent, une page sur laquelle on va écrire deux noms, Renault et Citroën, Louis et André. Ils sont loin d'avoir été les seuls constructeurs automobiles à s'illustrer en France dans la première moitié du XXe siècle. Mais si on les met en lumière, c'est parce qu'ils n'ont cessé de se comparer l'un à l'autre, de se mettre plus que les autres en concurrence permanente. Une lutte qui va les pousser à se surpasser, mais qui pourrait bien précipiter leur perte aussi. Leur histoire, elle nous est contée dans un documentaire de Fabien Béziat et Hugues Nancy intitulé « Renault et Citroën, la course du siècle » à voir ce vendredi soir sur la Une dans Retour aux sources. Et ce qu'on y découvre, c'est que ces deux hommes se sont croisés déjà sur les bancs de l'école. C'est Hugues Nancy qui nous en parle.
C'est quelque chose que nous avons découvert avec Fabien Béziat quand on a travaillé sur ce film. C'est que, évidemment, on ne sait pas si eux, ils avaient des relations à cette époque-là. Hein. Ils ont deux profils totalement différents, mais ils se retrouvent dès leurs premières années dans un établissement qu'on appelait le lycée Condorcet, qui n'était pas un lycée puisqu'ils étaient, ils avaient 8-9 ans, hein, mais qui était un lycée important, une école importante de Paris. Ils n'ont pas du tout le même profil. L'un est très travailleur, André Citroën. L'autre n'est pas du tout travailleur et fugue souvent l'école, c'est Louis Renault. Mais c'est vrai que leur histoire débute au même endroit, à la même époque, et elle se terminera pour tous les deux de manière assez dramatique.
Oui, complètement. Alors dans quel genre de famille est-ce qu'ils grandissent tous les deux ?
André Citroën grandit dans une famille immigrée qui vient des Pays-Bas pour son père, de la Pologne pour sa mère. C'est une famille juive qui est marquée par un drame qui est la mort du père d'André Citroën qui se suicide, qui est très marquée par l'antisémitisme de la fin du 19e siècle en France. Et André Citroën grandit avec l'idée un peu, on dirait aujourd'hui, du mérite républicain, on dit ça en France, à savoir le fait que par le travail, par l'école, on peut réussir de belles choses. Et il aura un parcours brillant puisqu'il va devenir polytechnicien.
Complètement.
Et donc, il a cette envie de réussir par l'école. Louis Renault, c'est totalement différent. C'est une famille bourgeoise qui vit dans l'ouest parisien, du côté de Boulogne, qui est une famille qui s'est enrichie en fabriquant des boutons notamment d'uniformes pour l'armée française. Et Louis Renault, qui est un peu le dernier des enfants, lui vit dans cet idéal industriel commercial, mais qu'il n'apprécie pas tellement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la mécanique, c'est la technique.
Oui.
Et donc, il va essayer de se faire une place dans une famille qui n'est pas tellement ouverte à ses aspirations à lui. Et il va se faire, tout seul. Voilà.
Mmh. Oui, ce sera une passion précoce pour la mécanique. On va y revenir. Vous parliez du deuil d'André Citroën. Effectivement, son papa se suicide quand il a 6 ans. C'est aussi un point commun entre les deux hommes parce que l'existence de Louis Renault aussi sera émaillée de deuil et pas les moindres.
Alors, Louis Renault perd plusieurs membres de sa famille, et le plus important, c'est effectivement la perte de ce père. Et pour les deux hommes, il y a cette douleur de chercher dans leur action d'adulte un regard et une admiration de leur père qu'ils n'ont plus. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur vie à essayer de répondre aux attentes de pères qui ne sont plus là, comme si ils étaient incapables finalement de répondre à cette attente et en permanence ils avaient besoin de faire leurs preuves.
Ouais,
voilà, il y a un déséquilibre psychologique très très fort chez les deux hommes.
Comme les milliers de visiteurs qui déambulent entre le Trocadéro et le Champ de Mars, André Citroën, lui, est fasciné par le monstre d'acier qui trône au cœur de l'exposition. André, qui a toujours été complexé par sa mauvaise vue et par sa petite taille, rêve de grandeur devant cette tour Eiffel qui se perd dans les nuages. Enfant, l'improbable chantier tant décrié par les Parisiens est déjà son refuge.
Extrait de ce documentaire de Hugues Nancy et Fabien Béziat, Renault et Citroën, la course du siècle, un docu à voir ce vendredi sur La Une dans Retour aux sources, Caroline.
Oui Laurent, ici on l'entendait, le jeune André Citroën est fasciné par la Tour Eiffel à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Il n'a pas de passion précise mais il rêve de grandeur, c'est un intellectuel. En revanche, le petit Louis Renault, lui, est très manuel, pragmatique, il est séduit très jeune par la mécanique et il va rapidement mettre les mains à la pâte. J'ai demandé à Hugues Nancy comment était née cette passion précoce.
Louis Renault se passionne, il faut bien voir qu'on est à la fin du 19e siècle, hein, les premières années du 20e siècle, et donc c'est vraiment la naissance de l'automobile, mais c'est les balbutiements de l'automobile. Louis Renault découvre la mécanique dans un petit atelier qu'il installe au fond de son jardin, et c'est un peu son jardin secret, et il se rend compte qu'il a un certain talent, et c'est vrai que le génie automobile, le génie mécanicien des deux, c'est Louis Renault. Ouais.
Il a quel âge, quand il commence à chipoter à la mécanique ?
Il a une quinzaine d'années, ouais. Et puis dès qu'il a 17 ans, il a les moyens, puisque ses parents sont très riches, il achète une des premières automobiles qui sont fabriquées en France, c'est une de Dion-Bouton, et il la démonte, il la reconstruit, et il invente ce qui aujourd'hui est le
la boîte à vitesse.
La boîte de transmission, pardon, qui équipe toutes nos voitures. Il invente le fait de pouvoir passer des vitesses sur un véhicule. Voilà, et donc il fabrique sa première automobile au début du siècle.
Ouais, ouais.
André Citroën, lui, est plus un commerçant dans le sens où il va être traumatisé par la mort de sa mère. Après la perte de son père, il perd sa mère alors qu'il vient d'entrer à Polytechnique. Et ça remet un peu pour lui tout à plat, et il se cherche et il aimerait bien avoir sa propre entreprise, être indépendant, réussir quelque chose dans la vie. Mais il n'a pas d'idée. Et donc, il cherche une idée, il la trouve en Pologne dans une usine d'engrenage. Et donc, lui, il va créer une société d'engrenage, d'où le fameux symbole de Citroën qui sont les chevrons, parce que c'est des engrenages à chevrons qu'il fabriquait. Et ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, après avoir fabriqué une usine d'armement de fabrication d'obus, qu'il va se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de mon usine ? Et il va trouver que l'automobile, et en tout cas la fabrication d'automobiles à la chaîne prête à rouler, c'est une voie intéressante.
Vous décrivez les deux hommes avec des personnalités très très différentes. Louis Renault est plutôt sombre, pas très sociable. Est-ce que ça l'a desservi, ça ?
Oui, dans le sens où Louis Renault est quelqu'un qui globalement est incompris aujourd'hui de la société française. Il a commencé seul, incompris de sa famille, dans un atelier, et tout le monde se demandait ce qu'il faisait bien, quel plaisir il pouvait avoir à monter et démonter des automobiles. Ouais. Et il a terminé incompris au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était tellement obsédé par son usine qui était à Paris, qu'il a fait plusieurs erreurs, il est resté dans son usine, il a défendu son outil de travail jusqu'au bout, et on le lui a reproché à l'issue de la guerre. Mmh. Et il a eu cette image de collaborateur aussi parce qu'il était un peu coupé du monde.
Ouais, c'est quand même un homme, je trouve, très méritant, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a commencé, on le disait, hein, lui, de ses propres mains, dans son petit atelier, et qu'il a finalement monté son empire petit à petit.
C'est un géant de l'industrie française. Il a marqué profondément l'industrie française. Il a inventé le premier groupe automobile international qui a conquis des marchés dans le monde entier. C'était vraiment un grand industriel. Et André Citroën aussi, hein, pour d'autres raisons. André Citroën avait le génie de la publicité. Oui. André Citroën, il a inventé le crédit à la consommation, André Citroën, en France. Il est le premier à avoir permis aux gens de s'endetter pour acheter une automobile, ce qui est la clé aujourd'hui encore du marché automobile. De manière différente, les deux hommes ont créé des géants qui ont marqué notre histoire. Mais ce qui est passionnant dans l'aventure de Louis Renault et d'André Citroën, c'est que on a voulu oublier les fondateurs. Et aujourd'hui, peu de gens savent encore que Renault avait un prénom et que Citroën avait un prénom. Et que c'était des noms de famille que des hommes ont portés et qui ne sont pas uniquement des marques.
Hein,
c'est des noms qui sont devenus des marques. Mais on a voulu, pour des raisons différentes, les oublier, parce que ceux qui ont pris la suite, à savoir pour Renault, la France, et pour Citroën, la famille Michelin, ceux qui ont repris leurs entreprises ont voulu gommer l'histoire de ses fondateurs.
Paris, 1934. Sous la verrière du Grand Palais, deux hommes sont filmés ensemble pour la première fois. Vous ne connaissez pas leur visage, mais vous connaissez leur nom. Renault et Citroën. Deux géants de l'automobile. Ces deux hommes seront broyés par le destin. Dans quelques semaines, l'un va mourir brutalement et l'autre va débuter une véritable descente aux enfers. La France, elle, va bientôt oublier les hommes pour ne se souvenir que des marques internationales qu'ils ont fondées. quand ils se rencontrent pour la première fois 50 ans plus tôt sur les bancs du lycée Condorcet à Paris, les deux garçons de 8 ans n'imaginent pas un instant qu'ils vont partager la même passion. Une passion qui va violemment les opposer avant de les conduire irrémédiablement à leur perte.
Début du documentaire consacré à Louis Renault et André Citroën, à voir vendredi soir sur la Une dans Retour aux sources, Caroline.
Oui, on y découvre l'histoire de ces deux hommes dont on a oublié l'existence pour ne se souvenir que de leur marque. On verra qu'ils ont chacun à leur façon redoublé d'ingéniosité pour faire grandir leur empire automobile, se surprenant l'un l'autre en même temps que le reste de la société française, évidemment. On ne va pas tout dévoiler ici, mais j'ai eu envie de revenir à leur début. Renault se lance au tournant du XXe siècle, Citroën un petit peu plus tard, ils s'inspirent tous les deux d'Henry Ford, qui a instauré le travail à la chaîne dans ses usines aux États-Unis, en s'inspirant lui-même de ce qui se faisait déjà dans les abattoirs géants de Chicago, on en a parlé ici. Ils sauvent leur entreprise de la faillite pendant la Première Guerre mondiale, en fournissant du matériel roulant et des munitions aux soldats, dans un élan patriotique donc, et j'ai demandé à Hugues Nancy comment ils étaient au sortir de la Grande Guerre.
Alors, Louis Renault sort déjà comme un héros de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en raison de sa fin plus sombre, on a oublié qu'il avait participé au sauvetage de la France pendant la Première Guerre mondiale. Il a inventé le char d'assaut français. Il a permis que l'armée française puisse, à travers des milliers de camions, des milliers de canons, puisse se tirer de la Première Guerre mondiale. Donc Louis Renault, à la sortie de la guerre, est un héros. Son entreprise est de toute façon plutôt saine parce que, encore une fois, il a toujours investi ses bénéfices dans son outil de travail. Mmh. Et donc l'entreprise est assez florissante. André Citroën, lui, a eu un coup de maître pendant la Première Guerre mondiale. C'est qu'il a compris que l'armée avait besoin d'obus. Et il a compris le premier, avant Louis Renault, que le travail à la chaîne permettait de, notamment pendant la Première Guerre mondiale, de faire travailler des femmes sans qualification en découpant leur action dans la fabrication d'un obus. Et donc, il invente la première usine à la chaîne, qui est la première usine Citroën, et donc il fabrique des obus. On ne peut pas dire qu'il se soit enrichi dans le sens où il y a des lois à la sortie de la guerre qui ont permis à l'État de récupérer les bénéfices des industriels de guerre, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui avaient travaillé pendant la Première Guerre mondiale ont dû reverser 80% de leurs bénéfices à l'État. Donc André Citroën ne sort pas enrichi de la guerre, mais il a une usine, il a un outil de travail, il a une chaîne de fabrication, et ça va lui permettre d'être le premier de fabriquer des voitures à un prix raisonnable et qui est prête à rouler. Quand on la livre, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand on achetait une voiture, il fallait rajouter des pneus, il fallait rajouter beaucoup de choses à la structure que l'on vendait. Et André Citroën comprend que là, c'est le modèle de Ford, puisque Ford, avec sa Ford T, a compris que la voiture pouvait être un produit de très grande consommation. Mmh. Et donc, André Citroën fait ça à la sortie de la guerre.
Et il sera le premier, effectivement. Alors, est-ce que ces deux hommes dont vous dressez donc les portraits en parallèle dans ce documentaire, Renault et Citroën, La course du siècle, est-ce qu'ils se sont, on le sait, observés, oui, mais est-ce qu'ils se sont un petit peu fréquentés pendant toutes ces années de lutte où l'un tentait de réagir par rapport à l'autre ?
Alors, on a les traces de plusieurs moments où ils se sont croisés. On sait que André Citroën fait partie des admirateurs qui sont venus voir la démonstration du char d'assaut de Louis Renault pendant la Première Guerre mondiale. Et on sait que André Citroën a été très marqué par cette démonstration et il vouait un peu une certaine admiration à Louis Renault. On sait que Louis Renault a été exaspéré par André Citroën par la suite parce que André Citroën est venu bousculer un peu le jeu de Louis Renault entre les deux guerres. Oui. Et puis, il avait cette obsession de la publicité qui faisait que personne ne pouvait rester insensible. On sait que Louis Renault a très peu apprécié que André Citroën ait pu marquer son nom pendant 8 années sur la Tour Eiffel à Paris.
Ouais, c'est extraordinaire, on le voit dans le film d'ailleurs. Ouais.
Et donc, effectivement, il a été exaspéré par ce personnage qu'il trouvait pas sérieux. Voilà, il trouvait qu'il n'était pas un industriel sérieux, il trouvait qu'il jonglait avec sa trésorerie, il trouvait que toutes ces folies publicitaires, c'était pas forcément utile. Mais en même temps, il n'a pas pu s'empêcher aussi de rentrer dans le jeu de la concurrence. Notamment, on le voit avec tout ce qui s'est passé à travers la croisière noire, la croisière jaune, à travers d'abord la traversée du Sahara, qui étaient donc les enjeux coloniaux de la France. Louis Renault aussi a tenté de ne pas se laisser distancer sur tous les terrains commerciaux que défrichait André Citroën. Ouais. Et donc, on pense qu'il y a eu une ou deux rencontres pour essayer d'aplanir ces tensions entre les deux hommes. Et on sait qu'il y a un moment qui est crucial et qui va faire une grave erreur à André Citroën. C'est lorsque Louis Renault, pour se relancer face à la concurrence de Citroën, crée une usine gigantesque sur l'île de Boulogne-Billancourt.
Il met plusieurs années à créer, d'ailleurs.
Voilà, hein, il invente un outil de travail qu'on n'en avait jamais inventé en France. Et il ne peut pas s'empêcher de faire visiter cette usine à André Citroën. Il triche un petit peu en lui faisant croire que l'usine est bien plus grande que ce qu'elle est en réalité. Et André Citroën sort de là tellement subjugué qu'il n'a